Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Dans nos lectures en liberté, nous revenons donc au roman de Patrick Modiano « Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier ». Le téléphone sonna dans l'après-midi à la même heure que l'autre jour et il pensa que c'était de nouveau Gilles Ottolini. Mais non, une voix féminine. Chantal Grippet. Vous vous souvenez ? Nous nous sommes vus hier avec Gilles, je ne veux pas vous déranger. La voix était faible, brouillée par des grésillements. Un silence. « J'aimerais beaucoup vous voir, monsieur Daragan, pour vous parler de Gilles. » Maintenant, la voix était plus proche. Apparemment, cette Chantal Grippet avait vaincu sa timidité. « Hier soir, quand vous êtes parti, il a eu peur que vous ne soyez fâché contre lui. Il passe 2 jours à Lyon pour son travail. Voulez-vous que nous nous voyions tous les deux en fin d'après-midi ?» Le ton de cette Chantal Grippet avait pris de l'assurance comme un plongeur qui a hésité quelques instants avant de se jeter à l'eau. « Vers 5 heures, cela vous irait ? J'habite 118, rue de Charonne. » Daragan nota l'adresse à la même page que celle où était écrit le nom, Guy Tortstel. « Au 4e étage, au fond du couloir, c'est écrit en bas sur la boîte aux lettres. » Elle est au nom de Joséphine Grippet, mais j'ai changé de prénom. Au 118 rue de Charonne, à 6 heures du soir, 4e étage, répéta Daragan. Oui, c'est bien ça. Nous parlerons de Gilles. Après qu'elle eut raccroché, la phrase qu'elle venait de dire, nous parlerons de Gilles, résonnait dans la tête de Daragan comme la chute d'un alexandrin. Il faudrait qu'il lui demande pourquoi elle avait changé de prénom. Un immeuble de briques, plus haut que les autres et légèrement en retrait. Daragan préféra monter les 4 étages à pied plutôt que de prendre l'ascenseur. Au fond du couloir, sur la porte, une carte de visite au nom de Joséphine Grippet. Le prénom Joséphine était barré et remplacé à l'encre violette par celui de Chantal. Il s'apprêtait à sonner, mais la porte s'ouvrit. Elle était habillée en noir, comme l'autre jour, au café. La sonnette ne marche pas, mais j'ai entendu le bruit de vos pas. Elle souriait, et elle restait là, dans l'embrasure de la porte. On aurait cru qu'elle hésitait à le laisser entrer. « Si vous voulez, nous pouvons aller prendre un verre à l'extérieur, » dit Daragan. Mais pas du tout, entrez. Une chambre de taille moyenne et à droite, une porte ouverte. Elle donnait apparemment sur une salle de bain. Une ampoule pendait au plafond. Ce n'est pas grand ici, mais nous y serons mieux pour parler. Elle se dirigea vers le petit bureau de bois clair entre les 2 fenêtres, prit la chaise et vint la poser à proximité du lit. Asseyez-vous. Elle s'assit elle-même sur le bord du lit, ou plutôt du matelas, car le lit n'avait pas de sommier. C'est ma chambre. Gilles a trouvé quelque chose de plus grand pour lui dans le 17e, square du Grésivaudan. Elle levait la tête pour lui parler. Il aurait préféré s'asseoir par terre ou à côté d'elle, sur le bord du lit. Gilles compte beaucoup sur vous pour l'aider à faire cet article. Vous savez, il a écrit un livre, mais il n'a pas osé vous le dire. et elle se renversa sur le lit, tendit les bras et prit un volume à couverture verte sur la table de nuit. « Voilà, ne dites pas à Gilles que je vous l'ai prêté. » Un mince volume intitulé « Le flâneur hippique », dont le dos indiquait qu'il avait été publié 3 ans auparavant aux éditions du Sablier. Dragan l'ouvrit et jeta un œil sur la table des matières. Le livre se composait de 2 grands chapitres, « Champs de course » et « École des jockeys ». Elle le fixait, de ses yeux légèrement bridés. « Il vaut mieux qu'il ne sache pas que nous nous sommes vus tous les deux. » Elle se leva, alla fermer l'une des fenêtres qui était entr'ouverte et s'assit de nouveau sur le bord du lit. Dragan eut l'impression qu'elle avait fermé cette fenêtre pour qu'on ne les entende pas. Avant de travailler chez Swirtz, Gilles écrivait des articles sur les courses et les chevaux dans des revues et des journaux spécialisés. Elle hésitait comme quelqu'un qui est prêt à faire une confidence. Quand il était très jeune, il a fait l'école des jockeys à Maison Lafitte. Mais c'était trop dur. Il a dû abandonner. Vous verrez si vous lisez le livre. Dragan l'écoutait attentivement. C'était étrange d'entrer aussi vite dans la vie des gens. Il pensait que cela ne lui arriverait plus à son âge, par lassitude de sa part et à cause de la sensation que les autres s'éloignent peu à peu de vous. « Il m'a entraîné sur les champs de course, il m'a appris à jouer, c'est une drogue, vous savez !» Elle paraissait triste, brusquement. Dragan se demanda si elle ne cherchait pas auprès de lui un appui quelconque, matériel ou moral. Et la gravité de ces derniers mots qui lui avaient traversé l'esprit lui donna envie de rire. « Et vous allez toujours jouer sur les champs de course ?»« De moins en moins, depuis qu'il travaille chez Swirtz. » Elle avait baissé la voix. Peut-être craignait-elle que Gilles Ottolini n'entre dans la chambre à l'improviste et ne les surprenne tous les deux. Je vous montrerai les notes qu'il a rassemblées pour son article. Peut-être vous avez connu tous ces gens. Quels gens? Par exemple, la personne dont il vous a parlé, Guy Tortstel. De nouveau, elle se renversa sur le lit et prit au bas de la table de nuit une chemise en carton bleu ciel qu'elle ouvrit. Elle contenait les pages dactylographiées et un livre qu'elle lui tendit. Le noir de l'été. « Je préfère que vous le gardiez, » dit-il d'un ton sec. Il a marqué la page où vous citez le nom, Guy Tortstel. « Je lui demanderai de la photocopier, ça m'évitera de relire le livre. » Elle parut étonnée qu'il ne veuille pas relire le livre. « Tout à l'heure, nous irons faire une photocopie des notes qu'il a prises pour que vous l'emportiez avec vous. » Et elle lui désignait les pages dactylographiées. « Mais tout cela doit rester entre nous. » Dragan se sentait un peu raide sur sa chaise, et pour se donner une contenance, il feuilletait le livre de Gilles Ottolini. Au chapitre « Champs de course », il tomba sur un mot imprimé en lettres majuscules, « Le Tremblay ». Et ce mot provoqua chez lui un déclic, sans qu'il sût très bien pourquoi, comme s'il lui revenait peu à peu en mémoire un détail qu'il avait oublié. « Vous verrez, c'est un livre intéressant !» Elle levait la tête vers lui et souriait. « Vous habitez ici depuis longtemps ? 2 ans ?» Les murs beiges, que l'on n'avait certainement pas repeints depuis des années, le petit bureau et les 2 fenêtres qui donnaient sur une cour. Il avait habité dans des chambres identiques à l'âge de cette Chantal Grippet, et quand il était plus jeune qu'elle. Mais à l'époque, ce n'était pas dans les quartiers de l'Est, plutôt au sud, à la périphérie du 14e ou du 15e arrondissement, et vers le nord-ouest, square de Grand-Yvaudan qu'elle avait cité tout à l'heure par une mystérieuse coïncidence, et aussi au pied de la butte Montmartre, entre Pigalle et Blanche. Je sais que Gilles vous a appelé ce matin avant de partir pour Lyon, il ne vous a rien dit de particulier. Non, simplement que nous allions nous revoir. Il avait peur que vous soyez fâché. Peut-être Gilles Ottolini était-il au courant de leur rendez-vous d'aujourd'hui. Il jugeait qu'elle serait plus convaincante que lui pour l'inciter à parler, comme ces inspecteurs de police qui se relaient au cours d'un interrogatoire. Non, il n'était pas parti pour Lyon et il écoutait leur conversation derrière la porte. Cette pensée le fit sourire. Je suis indiscret, mais je me demande pourquoi vous avez changé de prénom. Je trouvais que Chantal, c'était plus simple que Joséphine. Elle avait dit ça avec sérieux, comme si ce changement de prénom avait été mûrement réfléchi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de Chantal. Comment connaissez-vous ce prénom ? Je l'ai choisi dans le calendrier. Elle avait déposé la chemise en carton bleu ciel sur le lit à côté d'elle. Une grande photo dépassait à moitié, entre l'exemplaire du noir de l'été et les feuilles dactylographiées. « C'est quoi cette photo ?»« La photo d'un enfant. » »« Vous verrez. » Elle faisait partie du dossier. Il n'aimait pas ce mot « dossier ». Gilles a pu obtenir des renseignements à la police sur le fait divers qui l'intéresse. « Nous avons connu un flic qui jouait aux courses. Il a fouillé dans les archives. Il a trouvé aussi la photo. » Elle avait de nouveau cette voix rauque de l'autre jour au café qui surprenait chez quelqu'un de son âge. « Vous permettez, dit Daragan, je suis trop haut sur cette chaise. » Il vint s'asseoir par terre au pied du lit. Maintenant, il se trouvait à la même hauteur. « Mais non, vous êtes mal ici, venez sur le lit. » Elle se penchait vers lui et son visage était si près du sien qu'il remarqua une minuscule cicatrice sur la pommette gauche. Le Tremblay, Chantal, le square du Grésivaudan. Ces mots avaient fait leur chemin. Une piqûre d'insecte d'abord très légère, et elle vous cause une douleur de plus en plus vive, et bientôt une sensation de déchirure. Le présent et le passé se confondent, et cela semble naturel, puisqu'ils n'étaient séparés que par une paroi de cellophane. Il suffisait d'une piqûre d'insecte pour crever la cellophane. Il n'aurait su dire l'année, mais il était très jeune dans une chambre aussi petite que celle-ci, en compagnie d'une fille qui s'appelait Chantal. Un prénom assez courant à l'époque. Le mari de cette Chantal, un certain Paul, et d'autres amis à eux, étaient partis, comme ils en avaient l'habitude, le samedi pour jouer dans les casinos des environs de Paris, Angien, Forges-les-Eaux. Ils reviendraient le lendemain avec un peu d'argent. Lui, Daragan et cette Chantal, ils passaient toute la nuit ensemble, dans la chambre du square du Grésivaudan, jusqu'au retour des autres. Paul, le mari, fréquentait aussi les champs de course. Un joueur. Il n'était question avec lui que de martingale. L'autre Chantal, celle du présent, se leva et ouvrit l'une des deux fenêtres. Il commençait à faire très chaud dans cette chambre. J'attends un coup de téléphone de Gilles. Je ne vais pas lui dire que vous êtes là. Vous me promettez que vous allez l'aider ? De nouveau, il eut le sentiment qu'il s'était mis d'accord, elle et Gilles Ottolini, pour ne pas lui laisser de répit et lui donner rendez-vous chacun à son tour. Mais dans quel but ? Et l'aider à quoi exactement ? À écrire son article sur le vieux fait divers, dont lui, Daragan, ne savait encore rien ? Peut-être le dossier, comme elle disait tout à l'heure, ce dossier-là, à côté d'elle, sur le lit, dans la chemise en carton ouverte, lui apporterait quelques éclaircissements. « Vous me promettez de l'aider ?» Elle était plus pressante et agitait son index. Il ne savait pas si ce geste était une menace. « À condition qu'il me précise ce qu'il veut exactement de moi. »
Mots qui s'étalent dans toutes les chansons. Faut se le dire, c'est un fantôme, n'y touche pas. Brûlant d'arôme, regarde tout bas. L'air innocent de Saint-Vincent. On a maquillé nos squelettes érodés, c'est bien plus pratique. mais l'un sans l'autre, le cœur n'ose pas. Mais l'un dans l'autre, la vie va s'en va, effleurant le vent Saint-Vincent. On n'est pas nihiliste, c'est la rue qui dit tout ça. Le prochain sur la liste, c'est toi, tu me raconteras. Un petit coup de couteau, trois petites balles dans le dos. Saint-Vincent joue avec les mots. Du whisky ou la vodka, peu importe, ça ira. Je veux partir encore. Une fois passé du côté de l'avissage, plus rien à faire. Mais quand tu gigotes, je chavire doucement. Tu me ravigotes tant et les yeux sanglants. Si t'es le talent, moi je serai l'envie, la froide lame. Et si nos deux vies s'éclairent un moment dans une harmonie, je resserrerai les dents. Un petit coup de couteau, trois petites balles dans le dos. Saint-Vincent joue avec les mots. Du whisky ou la vodka, peu importe, ça ira. Je veux partir encore. Il cousait sa vie, si le temps vous en dit. Rue des Brouettes. Mais les artistes, Saint-Vincent, ça n'existe pas. Mais la chanson va.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Patrick Modiano, pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, après la pause musicale. Une sonnerie stridente venait de la salle de bain, puis quelques notes de musique. Mon portable, ça doit être Gilles. Elle entra dans la salle de bain et referma la porte derrière elle, comme si elle ne voulait pas que Daragan l'entende parler. Il s'assit sur le bord du lit. Il n'avait pas remarqué au mur près de l'entrée un porte-manteau où était accrochée une robe qui lui sembla de satin noir. De chaque côté, au-dessous des épaules, était cousue une hirondelle en lamé d'or. Des fermetures éclairs à la hanche et au poignet. Une robe ancienne, sans doute, trouvée aux puces. Il l'imagina dans cette robe de satin noir aux deux hirondelles jaunes. Derrière la porte de la salle de bain, de grands moments de silence. Et chaque fois, Daragan croyait que la conversation était terminée. Mais il l'entendait dire de sa voix rauque, « Non, je te le promets. » Et cette phrase revenait à deux ou trois reprises. Il l'entendit aussi dire, « Non, ce n'est pas vrai. » Et « C'est beaucoup plus simple que tu ne penses. » Apparemment, Gilles Ottolini lui reprochait quelque chose ou lui confiait ses soucis. Et elle voulait le rassurer. La conversation se prolongeait et Daragan fut tenté de quitter la chambre sans faire de bruit. Plus jeune, il profitait de la moindre occasion pour fausser compagnie aux gens sans qu'il pût s'expliquer très bien pourquoi. Une volonté de rompre et de respirer à l'air libre. Mais aujourd'hui, il éprouvait le besoin de se laisser glisser au fil du courant, sans résistance inutile. Il sortit de la chemise en carton bleu ciel la photo qui avait tout à l'heure attiré son attention. À première vue, il s'agissait de l'agrandissement d'une photo d'identité. Un enfant d'environ 7 ans, aux cheveux courts, tels qu'on les coiffait au début des années 50, mais cela pouvait être aussi un enfant d'aujourd'hui. On vivait une époque où toutes les modes, celles d'avant-hier, d'hier et d'aujourd'hui, se confondaient, et l'on était peut-être revenu pour les enfants à cette coupe de cheveux d'autrefois. Il faudrait qu'ils tirent cela au clair, et il avait hâte d'observer la coupe des cheveux des enfants dans la rue. Elle sortit de la salle de bain, son portable à la main. « Excusez-moi. Ça a duré longtemps, mais je lui ai remonté le moral. Quelquefois, Gilles voit tout en noir. » Elle s'assit à côté de lui sur le bord du lit. « Voilà pourquoi il faut que vous l'aidiez. Il aimerait bien que vous vous souveniez qui était ce Torstel. Vous n'avez pas une idée ?» De nouveau, l'interrogatoire. Jusqu'à quelle heure de la nuit se poursuivrait-il ? Il ne sortirait plus de cette chambre. Peut-être avait-elle fermé la porte à clé. Mais il se sentait très calme, juste un peu fatigué, comme souvent à la fin de l'après-midi, et il lui aurait volontiers demandé la permission de s'allonger sur le lit. Il se répétait un nom à lui-même et il ne pouvait pas s'en débarrasser. Le Tremblay. Un champ de course de la banlieue sud-est où Chantal et Paul l'avaient entraîné un dimanche d'automne. Paul avait échangé quelques mots dans les tribunes avec un homme plus âgé qu'eux et leur avait expliqué qu'il le rencontrait parfois au casino de Forges-les-Eaux et qu'il fréquentait aussi les champs de course. L'homme leur avait proposé de les ramener en voiture à Paris. C'était vraiment l'automne et non pas l'été indien d'aujourd'hui où il faisait si chaud dans cette chambre sans qu'ils sachent très bien quand ils pourraient prendre congé. Elle avait refermé la chemise en carton et l'avait posée sur ses genoux. « Il faudrait que nous allions faire des photocopies pour vous. C'est tout prêt. » Elle consultait sa montre. « Le magasin ferme à 7 heures, nous avons le temps. » Il essaierait plus tard de se rappeler l'année exacte de cet automne-là. Du Tremblay, ils avaient suivi la Marne et traversé le bois de Vincennes à la tombée de la nuit. Tarragane se tenait à côté de l'homme qui conduisait les deux autres à l'arrière. L'homme avait paru surpris quand Paul avait fait les présentations. Jean Tarragane. Il parlait de tout et de rien, de la dernière course au Tremblay. L'homme lui avait dit « Vous vous appelez Tarragane ? Je crois que j'ai rencontré vos parents, il y a longtemps. » Ce terme « parent » le surprit. Il avait le sentiment de n'avoir jamais eu de parents. Ça date d'une quinzaine d'années, dans une maison près de Paris, je me souviens d'un enfant. L'homme s'était tourné vers lui. « L'enfant, c'était vous, je suppose. » Tarragane craignait qu'il ne lui posât des questions sur une période de sa vie à laquelle il ne pensait plus. Et puis, il n'aurait pas grand-chose à lui dire. Mais l'autre gardait le silence. À un moment, l'homme lui demanda « Je ne me rappelle plus quel était cet endroit aux environs de Paris. » « Moi non plus. » Et il regretta de lui avoir répondu de manière aussi sèche. Oui, il finirait bien par se souvenir de la date exacte de cet automne-là. Mais pour le moment, il était toujours assis sur le bord du lit à côté de cette Chantal, et il lui sembla qu'il se réveillait d'un brusque assoupissement. Il cherchait à reprendre le fil de la conversation. « Vous mettez souvent cette robe ?» Il lui désignait la robe de satin noir aux deux hirondelles jaunes. « Je l'ai trouvée ici, quand j'ai loué la chambre. Elle appartenait certainement à la locataire précédente. Ou peut-être à vous, dans une vie antérieure. » Elle fronça les sourcils et le fixa d'un regard méfiant. Elle lui dit « Nous pouvons aller faire les photocopies ?» Elle s'était levée. Et Tarragane eut l'impression qu'elle voulait quitter la chambre au plus vite. De quoi avait-elle peur ? Il n'aurait peut-être pas dû lui parler de cette robe. À son retour chez lui, il se demanda s'il n'avait pas rêvé. C'était sans doute à cause de l'été indien et de la chaleur. Elle l'avait entraîné jusqu'à une papeterie sur le boulevard Voltaire, au fond de laquelle il y avait une photocopieuse. Les feuilles dactylographiées étaient de la minceur du papier que l'on utilisait jadis pour envoyer des lettres par avion. Ils étaient sortis de la boutique et ils avaient fait quelques pas sur le boulevard. On aurait dit qu'elle ne voulait plus le quitter. Peut-être craignait-elle qu'après leur séparation, il ne leur donne plus signe de vie et que Gilles Ottolini ne sache jamais qui était le mystérieux Torstel. Mais lui aussi serait volontiers resté en sa compagnie, tant la perspective de rentrer seul dans son appartement lui causait de l'appréhension. Si vous lisez le dossier ce soir, peut-être cela vous rafraîchira la mémoire. Et elle lui désignait la chemise en carton orange qu'il avait à la main et qui contenait les photocopies. Elle avait même tenu à ce que soit reproduite la photo de l'enfant. « Vous pouvez me téléphoner à n'importe quelle heure cette nuit. Gilles ne revient que demain après-midi. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez de tout ça. » Elle avait sorti de son portefeuille une carte de visite au nom de Chantal Grippet, avec son adresse 118 rue de Charonne et son numéro de portable. « Je dois rentrer maintenant. Gilles va m'appeler et j'ai oublié de prendre mon portable. » Ils avaient fait demi-tour et marchaient en direction de la rue de Charonne. Ils ne disaient rien, ni l'un ni l'autre. Ils n'avaient pas besoin de parler. Elle avait l'air de trouver naturel qu'ils marchent côte à côte. Et Daragan avait pensé que s'il lui prenait le bras, elle le laisserait faire comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Ils s'étaient séparés devant les escaliers de la station du métro Charonne. Maintenant, dans son bureau, il feuilletait les pages du dossier. Mais il n'avait pas envie de les lire tout de suite. D'abord, elles avaient été dactylographiées sans double interligne, et cette masse de caractères tassés les uns sur les autres le décourageait à l'avance. Et puis, ce Torstel, il avait fini par l'identifier. Au retour du Tremblay, ce dimanche d'automne-là, l'homme voulait les déposer chacun à son domicile, mais Chantal et Paul étaient descendus à Montparnasse. De là, le métro était direct jusqu'à chez eux. Il était resté dans la voiture, parce que l'homme lui avait dit qu'il n'habitait pas très loin du square du Grésy-Vaudan, là où lui, Daragan, occupait cette chambre. Il savait garder le silence pendant une grande partie du trajet. L'homme avait fini par lui dire « J'ai dû aller deux ou trois fois dans cette maison des environs de Paris. C'est votre mère qui m'y a emmené. » Daragan n'avait rien répondu. Vraiment, il évitait de penser à cette époque lointaine de sa vie. Et sa mère, il ne savait même pas si elle était encore vivante. L'autre avait arrêté la voiture à la hauteur du square du Grésy-Vaudan. « Faites mes amitiés à votre mère. » Nous nous sommes perdus de vue depuis très longtemps. Nous faisions partie d'une sorte de club avec des amis, le club des chrysalides. Tenez, si par hasard elle cherche à me joindre. » Il lui tendait une carte de visite sur laquelle était écrit « Guy Torstel ». Et autant qu'il s'en souvienne, une adresse professionnelle, une librairie du Palais Royal et un numéro de téléphone. Par la suite, Daragan avait perdu la carte de visite, mais il avait quand même recopié le nom et le numéro de téléphone. Pourquoi ? Sur un carnet d'adresses de cette époque-là. Il s'assit à son bureau. Sous les feuilles du dossier, il découvrit la photocopie de la page 47 de son roman « Le noir de l'été », où il était question, paraît-il, de ce Torstel. Le nom était souligné, sans doute, par Gilles Ottolini, et il lut « Galerie de Beaujolais, il y avait bien une librairie derrière la vitrine de laquelle étaient exposés les ouvrages d'art. Il entra. Une femme brune était assise à son bureau. « J'aimerais parler à M. Morillien. »« M. Morillien est absent, lui dit-elle, mais voulez-vous parler à M. Torstel ?» C'était tout. Pas grand-chose. Le nom ne figurait qu'à la page 47 de son roman. Et il n'avait vraiment pas le courage, cette nuit, de le rechercher dans les pages dactylographiées sans double interligne du dossier Torstel, une aiguille dans une botte de foin. Voilà, nous avons terminé pour ce soir et nous reprendrons la suite de ce roman de Patrick Modiano demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.